j'aimerais parler sur soyez remplis du Saint-Esprit. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Nous savons que les premiers disciples ont fait l'expérience de la Pentecôte lorsque le Saint-Esprit a été déversé en abondance et ils se mirent à parler en d'autres langues. Là, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et on sait que par la suite, les disciples ont été à nouveau remplis du Saint-Esprit à plusieurs reprises. Ici, Paul nous enseigne, et il parle à l'Église, d'être continuellement remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. J'ai regardé d'autres versions. La parole vivante, par exemple, dit « Laissez-vous constamment à nouveau remplir par le Saint-Esprit et cherchez en lui votre plénitude. » Ça, c'est le sens du mot en grec qui est un présent impératif, mais un présent passif, c'est-à-dire ça doit s'entretenir dans la durée. Entretenez-vous continuellement. Laissez-vous à nouveau remplir. Alors, nous devons être remplis du Saint-Esprit, non pas simplement une fois le jour où on a été rempli, peut-être on s'est mis à parler en langue, mais on doit rechercher la vie de l'Esprit constamment et être à nouveau rempli, renouvelé dans la vie de l'Esprit. Le texte continue au verset 19 et nous demande, dans le même contexte, de nous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques, donc des paroles encourageantes, des paroles de bénédiction. Alors, s'entretenir par des paroles, c'est important dans l'Église parce que les paroles sont puissantes. Les paroles sont puissantes pour édifier, mais les paroles sont puissantes pour décourager. Il y a Éphésiens 4, 29 qui dit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Bon, la parole est assez claire, c'est que nous devons enlever de notre bouche toutes les paroles mauvaises et on ne devrait pas rapporter ces propos parce que ce sont des propos décourageants, des propos qui vont affaiblir, qui vont communiquer beaucoup de mal autour de nous, mais par contre des bonnes paroles. Voilà ce que nous devons avoir dans la bouche. Et nous devons nous entretenir. J'ai retenu le verbe « entretenez-vous », l'entretien régulier, « entretenez-vous ». Parce que l'entretien, c'est vraiment indispensable. Si on n'entretient pas sa vie spirituelle, elle va péricliter. Le 14 août 2018, il y a un effondrement d'un pont qui est survenu. C'était à Gênes. Un pont était haut de 45 mètres et il s'est effondré sur un espace de 250 mètres, il y a eu 43 morts. Ce pont était là depuis 50 ans, il n'y avait jamais eu de problème. Alors les experts ont analysé comment ce pont a-t-il pu s'effondrer du jour au lendemain, alors que même des voitures circulaient dessus. Eh bien, ils ont découvert que la raison principale pour laquelle le pont s'est effondré du jour au lendemain, c'est parce qu'ils avaient négligé l'entretien de ce pont dans la durée. Ils n'avaient pas fait les choses correctement. Négliger l'entretien du pont a coûté la vie à 43 personnes. Négliger notre vie spirituelle, nous coûtera la vie spirituelle, c'est-à-dire on peut même mourir spirituellement parce qu'on a négligé d'entretenir notre foi, notre piété, notre amour pour Dieu. Peut-être qu'autrefois vous avez connu des temps de rafraîchissement, de visitation avec le Seigneur, et puis si vous ne l'avez pas entretenu, aujourd'hui c'est un petit ruisseau où c'est sec, ou même c'est mort. Il n'y a plus de vie parce que ça n'a pas été entretenu et c'est la mort spirituelle. C'est-à-dire, on vient à l'église, on continue à lire la Bible, on continue à prier, mais il n'y a plus la vie spirituelle. On n'a pas entretenu. C'est pour ça que Paul insiste, entretenez-vous Entretenez-vous régulièrement dans vos cœurs, entretenez votre foi, entretenez votre piété. Sinon, un jour ou l'autre, eh bien vous connaîtrez un dessèchement spirituel et une mort spirituelle. Alors nous devons, le texte continue, après cet entretien, il dit au verset 20, « Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses. » Et ça, c'est quelque chose que nous devons pratiquer, c'est rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu en toutes choses, c'est-à-dire avec persévérance. C'est donc une décision que nous devons prendre. Ça signifie avoir une attitude de reconnaissance chaque jour. Chaque jour que Dieu nous donne, c'est un nouveau jour de grâce et un jour de bénédiction. Et nous devons apprendre à rendre grâce, pas seulement quand les choses nous sont favorables, mais même quand elles nous sont défavorables. Même quand les choses ne tournent pas comme on l'avait prévu, nous devons apprendre à rendre grâce à Dieu qui dirige toutes choses. Parce que Dieu connaît tout et il y a un temps où il agira, il manifestera sa bénédiction. Alors j'aimerais voir quelques exemples avec vous. On voit l'Église primitive dans les Actes des Apôtres, comment elle vivait la plénitude du Saint-Esprit. On peut aller dans Actes chapitre 4, on est un petit peu après la Pentecôte, donc la visitation du Saint-Esprit. On voit que les 120 avaient été remplis du Saint-Esprit. Et dans Actes 4, au verset 23, je lis un extrait, Actes 4, 23, jusqu'au verset 31. Ici, c'est les apôtres qui sont à nouveau remplis du Saint-Esprit, alors qu'ils avaient déjà été remplis du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, mais voyez, ils avaient besoin d'être à nouveau renouvelés. Alors le texte dit, après avoir été relâchés, ils, c'est donc les apôtres, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville, avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance, en étendant ta main, pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alors c'est intéressant de rappeler le contexte dans lequel se passe ce récit. Nous sommes au début de l'histoire de l'Église et les chrétiens étaient persécutés pour leur foi. Et on sait que si nous sommes vraiment chrétiens, il y aura de l'opposition, il y aura de la persécution. Paul le dit à Timothée dans 2 Timothée 3:12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Donc, si vous rencontrez la persécution à cause de votre foi, ça fait partie aussi de la vie chrétienne. Donc, ils ont une mauvaise nouvelle, c'est qu'on leur interdit de parler du nom de Jésus. C'est au verset 18, un petit peu avant. Le Sanhédrin les convoque et leur interdit de continuer à enseigner et à parler du nom de Jésus. Bon, c'est une interdiction formelle. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Face à cette opposition, il y a deux possibilités. Ben, soit vous acceptez, vous dites, bon, ben, on a reçu les consignes, on arrête, on ne parle plus de Jésus. Ou soit vous priez et vous attendez à la main de Dieu. Ce qu'ils ont choisi, ils ont choisi de prier. Ils se sont réunis avec les disciples. Et ils ont prié pour que Dieu intervienne dans cette opposition. Leur foi a été testée parce que Dieu aussi regarde comment nous réagissons dans les épreuves. Par exemple, Jacob, il est dit qu'il a lutté toute la nuit avec l'ange de l'Éternel. Il lutta avec Dieu et il a été vainqueur. Il a lutté jusqu'au bout. Bien, Dieu aime bien, dans l'épreuve dans laquelle nous sommes, que nous puissions aussi combattre dans la prière et nous attendre à l'action de Dieu jusqu'au bout. Ici, ils vont donc convoquer la multitude des disciples, ils vont leur raconter la situation et ils vont faire monter vers Dieu une prière collective. C'est-à-dire, la prière est puissante quand deux ou trois s'assemblent en son nom. Là, il y avait une multitude. Ils ont fait monter vers Dieu une prière collective et ça, c'est puissant pour faire déplacer les montagnes. Les apôtres voient la main de Dieu derrière cette épreuve. Regardez le verset 28. Il dit ceci. Ils disent, alors juste verset 27, Pilate, Ponce Pilate et Hérode se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et là, il parle de la main de Dieu et du conseil de Dieu. Ça veut dire que il croit que même le plan de Dieu s'accomplit même dans l'adversité, même dans l'opposition. Même si des personnes se dressent contre vous, le plan de Dieu s'accomplit quand même. On le voit dans la vie de Joseph qui aimait profondément Dieu, mais qui a été rejeté par ses frères, vendu comme esclave. Mais la main de Dieu, en fait, était sur sa vie. Et Joseph a vraiment vécu que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est-à-dire que tout le mal qu'on lui a fait, les rejets qu'il a connus, les injustices qu'il a vécues, n'ont pas empêché le plan de Dieu de s'accomplir pour sa vie. Et ça, si vous êtes chrétien, c'est quelque chose qui doit être dans votre cœur, que Dieu est au contrôle, comme ils disent, ben, il y a la main de Dieu, il y a le conseil de Dieu, il a arrêté des choses d'avance, ils ont beau se liguer, ils ont beau faire des plans pour détruire, c'est le plan de Dieu qui s'accomplira. Ça, c'est une certitude qui doit être dans notre cœur si nous sommes enfants de Dieu. Certains vont se lever contre vous, peut-être s'opposer à vous, s'associer pour vous nuire, essayer de vous détruire. Mais le plan de Dieu ne dépend pas des hommes. Le plan de Dieu s'accomplira malgré les obstacles. Alors, il y a des choses que Dieu a arrêtées d'avance dans notre vie. Il y a des choses que Dieu a déterminées pour chacun de nous. Ce n'est pas les mêmes choses pour chacun. Mais ce que Dieu a déterminé, ces choses s'accompliront si nous avons la foi, si nous persévérons, si nous prions. Eh bien, on peut dire le plan de Dieu s'accomplira. Alors aujourd'hui, peut-être vous voyez le contraire, un petit peu comme ses disciples, ils avaient la mission d'annoncer la parole, de prier pour les malades, et puis ils voient qu'ils sont persécutés. Donc ça, c'est ce qu'ils voient dans le temps présent. Mais ce qui se passe, c'est que comme ils vont être remplis du Saint-Esprit, ils ne marchent pas par la vue, mais ils marchent par la foi. Quand vous êtes remplis du Saint-Esprit, vous ne vous arrêtez pas aux difficultés présentes, mais vous marchez par la foi et vous êtes conduits par Dieu. Donc, les apôtres vont faire monter cette prière vers Dieu, une prière audacieuse, en disant « Seigneur, vois leurs menaces, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, qu'il se fasse des miracles, des prodiges, par ton saint serviteur Jésus. » C'est une prière audacieuse, parce qu'ils prient tout le contraire de ce qu'on leur a dit de faire. On leur a dit « Ne parlez pas de Jésus, arrêtez d'enseigner dans ce nom. » Et eux, ils prient le nom de Jésus et ils prient pour que le Seigneur manifeste sa puissance au travers les messages qu'ils vont adresser. Donc, ils font tout le contraire de ce qu'on leur a dit. Ils ne se laissent pas abattre par la situation décourageante, mais ils font une prière de la foi. La prière de la foi, c'est celle qui se confie en Dieu quand tous les paramètres sont négatifs. Et là, le texte dit qu'ils furent remplis du Saint-Esprit. Ah, ils avaient déjà le Saint-Esprit en eux, ils étaient déjà proches du Seigneur, mais ils ont été visités, renouvelés. C'est une nouvelle plénitude, ce qui signifie pour nous que nous avons besoin d'être renouvelés régulièrement dans la vie de l'Esprit. Ils sont remplis à nouveau, mais pour un but. Voyez, ils furent remplis du Saint-Esprit, pour quoi faire ? Pour annoncer la parole de Dieu avec assurance. On n'est pas rempli du Saint-Esprit pour rester et là et ne rien faire. On est rempli du Saint-Esprit pour servir dans l'œuvre de Dieu et pour faire la volonté de Dieu. Si vous cherchez à être rempli du Saint-Esprit juste pour que ça vous fasse du bien, ce n'est pas le but d'être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, le but, c'est de faire la volonté de Dieu et de marcher dans les voies du Seigneur et d'être disponible à son service. Deuxième exemple, donc après les apôtres ici qui sont persécutés, on peut aller dans Actes 7, verset 51, un autre exemple de plénitude. Maintenant, c'est Étienne qui a été rempli du Saint-Esprit dans Actes 7. Alors, je lis un extrait du discours d'Étienne. Étienne parle ici au Sanhédrin qui le persécute. Ce sont des juifs religieux qui n'acceptent pas sa foi chrétienne. Alors, il les interpelle en parlant à ces juifs religieux. Et il leur dit « Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères ont-ils pas persécuté ? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant, et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'ange et qui ne l'avez point gardée. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris et se bouchèrent les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul et ils lapidaient Étienne qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Et après ces paroles, il s'endormit. Alors, le Saint-Esprit est une personne. Il y a Dieu le Père, la personne du Père, il y a Dieu le Fils, Jésus, et Dieu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une personne de la Trinité. Donc, cette personne, elle peut être attristée si nous péchons, si nous parlons mal ou à tort et à travers. On peut aussi lui mentir et on peut s'opposer au Saint-Esprit. C'est ce qu'il dit ici Étienne au verset 51. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Comment on s'oppose au Saint-Esprit ? Quand on ne fait pas la volonté de Dieu, quand on fait pas ce qu'on veut, mais on ne se soumet pas à ce que Dieu demande, alors on s'oppose au Saint-Esprit. C'est arrivé à des croyants comme Jonas, le cas typique. Il reçoit une direction pour sa vie, d'aller à Ninive, c'était la volonté de Dieu, mais il s'oppose au Saint-Esprit et il va à l'opposé. Et il va connaître la tempête et tous les déboires qu'on connaît jusqu'à ce qu'il soit ramené dans la bonne direction. Mais il s'oppose au Saint-Esprit. Mais quand vous vous opposez au Saint-Esprit, quand vous désobéissez, vous perdez l'onction du Saint-Esprit, vous perdez son soutien et finalement vous vous affaiblissez spirituellement et vous dépérissez spirituellement. Donc l'onction n'est pas automatique. La vie de l'esprit ne se renouvelle pas comme cela toute seule. Il faut l'obéissance, il faut la foi. Par exemple, Saül avait bien l'onction du Saint-Esprit sur sa vie au début. Il était humble. Il a même eu des victoires en servant Dieu. Il avait l'onction du Saint-Esprit. Mais par sa désobéissance, il a perdu l'onction. Et puis finalement, il est mort dans des situations tragiques, loin des choses de Dieu, consultant une voyante, par exemple. Donc, il avait perdu vraiment sa communion avec Dieu. Il a été sanctionné, mais il s'opposait au Saint-Esprit. Donc, des paroles de Dieu que vous dites, comme Étienne ici, peuvent susciter des désaccords ou même de la violence, violente opposition. Pourtant, Étienne ne modifie pas le message de la parole de Dieu. Ça va lui coûter cher, ça va lui coûter la vie. Mais il va donner les paroles que Dieu met sur son cœur parce qu'il est inspiré par le Saint-Esprit. Et là, alors qu'il est rempli du Saint-Esprit, il va se passer plusieurs choses. Premièrement, il fixe le ciel avec un regard de foi. Deuxièmement, quand il fixe le ciel, il voit des choses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Il voit au-delà de la réalité visible, c'est-à-dire il ne voit pas que les nuages, mais il voit le Seigneur Jésus. Par exemple, quand Moïse quitta l'Égypte et il demeura ferme, comme voyant celui qui est invisible. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous commencez à voir les choses qui sont invisibles. Troisièmement, il voit que le ciel est ouvert sur lui, c'est-à-dire que le ciel est ouvert sur tous les enfants de Dieu. Et puis, il voit Jésus debout à la droite de Dieu. Il voit les choses célestes qu'on ne peut pas voir avec nos yeux. Donc, Le Saint-Esprit vous ouvre les yeux spirituels pour voir des choses que vous ne voyez pas naturellement. Ça, c'est une action de l'Esprit. Comparons maintenant, qu'est-ce que voient les pharisiens au même moment ? Les pharisiens peuvent regarder le ciel, ils ne voient rien. Ils ne voient que des nuages, ils voient peut-être le soleil, mais ils ne voient rien de spirituel parce qu'ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Ils sont remplis d'orgueil, ils sont remplis d'incrédulité, ils sont remplis de jugement, de méchanceté, et ils ne voient que les choses de la terre. Donc ils sont limités. Sans la foi, sans l'amour de Dieu, nous ne verrons rien. C'est la foi qui nous ouvre les yeux et nous permet de voir dans l'invisible. Je prends parfois l'exemple de la tarentule. La tarentule, elle a 8 yeux, mais elle ne voit presque rien. Elle ne voit pas loin et elle voit à peine quand il fait sombre et quand il fait jour. C'est tout. Mais par contre, elle a sur le corps un revêtement de poils très sensible à l'air qui lui permet d'être très précise dans ses déplacements et attaquer ses proies. En réalité, elle arrive à voir d'une autre manière qu'avec ses yeux. Et pour nous, c'est une image qui nous parle de ce que nous devons développer dans la vision des choses de Dieu et non pas nous baser sur ce que nous voyons, mais sur ce que l'Esprit met dans notre cœur et sur ce qu'il nous montre. Étienne, lui, avait cette vision-là qui lui a donné la force d'aller jusqu'au bout et de ne pas céder face à l'épreuve. Et puis, le texte dit que Saul de Tarse était présent. Donc ce jeune homme, appelé Saul, il était là quand on a lapidé Étienne. C'est lui qui gardait les vêtements. Et en fait, Étienne a prié pour lui puisqu'il dit que ce péché ne leur soit point imputé. Et en fait, quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous allez prier, inspiré par le Saint-Esprit. Vous allez prier pour les bons sujets et votre prière sera en harmonie avec la volonté de Dieu. Et on voit que Saul a été sauvé et qu'il est devenu un apôtre. Et tout cela est parti de cette prière d'Étienne qui a prié en quelque sorte pour ses persécuteurs dont Saul faisait partie. Et je termine avec un dernier exemple. C'est dans Actes 13 et au verset 6. Maintenant, c'est la plénitude du Saint-Esprit dans la vie de Paul, verset 6, acte 13. Donc, ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ? Maintenant voici la main du Seigneur est sur toi. » Tu seras aveugle pour un temps et tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Paul et ses compagnons, s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Eh bien, ici, nous sommes dans le premier voyage missionnaire de Paul et Barnabas. Ils arrivent dans l'île de Chypre, et alors qu'ils annoncent la parole de Dieu, il y a une violente opposition. Un faux prophète, Bar-Jésus, c'est un homme qui est dans l'occultisme, il s'oppose à eux, et Satan fera tout pour empêcher l'annonce de la parole de Dieu, donc il va susciter des faux prophètes, il peut même se déguiser en ange de lumière, il va séduire, comme il a séduit Ève, pour la tenter, il va amener les personnes au péché. Sergius Paulus, la Bible dit que c'était un homme intelligent, c'était donc un Romain qui avait une certaine culture, mais ce n'est pas l'intelligence qui va le sauver, ce n'est pas son intelligence qui va lui permettre d'être un enfant de Dieu, il faut qu'il passe par la conversion. On ne peut pas être sauvé par notre connaissance, mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Donc il était intelligent, et il a voulu entendre la parole de Dieu. mais dès qu'il entend la parole de Dieu, il se passe quelque chose dans le monde invisible. C'est-à-dire que Satan vient pour enlever la semence qui est semée par l'apôtre Paul. Donc il prêche, c'est comme s'il sème la parole, mais l'ennemi vient pour enlever la semence des cœurs. C'est ce qui est dit dans la parabole des terrains. Les oiseaux viennent, enlèvent la semence de peur qu'ils ne croient et ne se convertissent. Voilà la peur de Satan, c'est que les gens croient et qu'ils se convertissent. Donc il va tout faire pour que cet homme qui reçoit la parole ne croit pas et ne se convertisse pas. Voilà ce que le diable fait. Paul, lui, confronte le magicien. Il comprend que ce magicien qui est là est en train de semer des embûches, des obstacles à l'annonce de l'évangile. Alors, il va prier et la puissance de Dieu va tomber sur cet homme et l'arrêter. Il fallait que Paul soit rempli du Saint-Esprit parce que en face de lui, c'était le monde des ténèbres. C'était de l'opposition spirituelle. Et il va dévoiler sa véritable identité en lui disant, au verset 10, « Homme plein de ruse, de toute espèce de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice. » Ça, c'est sur le plan spirituel, il travaillait pour le diable. Et donc, sa magie, même s'il se disait prophète, c'était au nom, non pas au nom de Dieu, mais pour l'adversaire. Donc le magicien va devenir instantanément aveugle. Lui qui aveuglait les autres s'est retrouvé aveugle. Mais l'expression dit « pour un temps ». Ça veut dire que Dieu veut lui faire grâce aussi pour qu'il se repente et qu'il comprenne qu'il est dans une voie de perdition parce qu'il y a un temps où Dieu jugera le monde. Et là, il faut se repentir. Donc il laisse encore une possibilité de grâce. Dans les combats que nous menons, un peu comme Paul, l'opposition spirituelle, les combats spirituels, on a besoin, comme Paul, d'être rempli du Saint-Esprit, parce que ce n'est pas un combat humain. L'intelligence ne suffira pas, la connaissance ne suffira pas, la force humaine ne suffira pas, mais par contre, le revêtement du Saint-Esprit, ça c'est un plus. Luc 24, 49, c'est ce que le Seigneur a dit aux disciples, « Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Et il fait référence au Saint-Esprit, le revêtement du Saint-Esprit que Paul a ici. Si nous n'avons pas ce revêtement, comment allons-nous combattre contre les puissances spirituelles comme ces magiciens, ces faux prophètes qui font l'œuvre des ténèbres? Alors, certains sont fatigués, sont lassés, ils sont chrétiens, mais n'ayant pas ce revêtement de puissance, ils sont dominés par la puissance de l'ennemi. Et si Paul n'avait pas été revêtu du Saint-Esprit, très certainement qu'il aurait quitté cet endroit affaibli par tout ce que ce magicien faisait sur lui. Alors, aujourd'hui encore, nous en avons besoin. Et être rempli du Saint-Esprit, c'est vraiment bénéfique. Le gouverneur crut. Le texte dit, ce gouverneur crut, donc il a été touché suite à l'intervention de Dieu qui a arrêté ce faux prophète. Alors, ce miracle en lui-même a éveillé sa foi, mais il a fallu qu'il se repente et qu'il croie en Jésus, bien sûr. Ce n'est pas le miracle qui sauve, mais en tout cas, ça attire l'attention sur la réalité que Dieu existe et qu'il est capable de tout faire. Alors, on va conclure, on a vu plusieurs exemples de personnes qui ont été remplies du Saint-Esprit et pourtant ils avaient déjà été remplis du Saint-Esprit auparavant, mais ils avaient besoin d'être remplis à nouveau du Saint-Esprit. Si c'était vrai pour eux, je pense que c'est vrai pour nous encore aujourd'hui et que nous avons besoin aussi d'être renouvelés constamment dans la vie de l'Esprit. Si nous n'entretenons pas cette vie spirituelle, elle va se dessécher, elle va s'affaiblir, un petit peu comme ce pont qui s'est effondré du jour au lendemain parce qu'il n'était pas entretenu. Un jour ou l'autre, ça tombe. Alors, s'entretenir, on l'a dit au début, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Soyez remplis du Saint-Esprit. Si nous faisons ce que la Bible recommande, alors nous entretenons la piété, la vie spirituelle, et à ce moment-là, eh bien, c'est des fleuves d'eau vive. Des fleuves d'eau vive qui couleront de notre sein, comme dit l'Écriture. Ce n'est pas une mare stagnante, mais c'est un renouveau vivifiant, un peu comme une rivière qui coule. Donc l'eau se renouvelle constamment, mais dans une mare, si elle n'est pas renouvelée, la mare, eh bien, elle est stagnante et elle devient nauséabonde. Tandis que la rivière, elle est renouvelée constamment. Alors, soyons constamment renouvelés dans le Saint-Esprit. On va prier un instant. Merci encore pour ta parole qui nous rappelle ces vérités nécessaires à nos progrès spirituels pour être à nouveau remplis, visités, renouvelés, vivifiés par le Saint-Esprit. Seigneur, merci de cette bénédiction que tu as prévue pour l'Église. Tu l'as dit toi-même, d'attendre d'être revêtu de cette puissance d'en haut. Merci pour la Pentecôte, pour ce jour où tu as déversé l'Esprit en abondance. Pour ces promesses, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et ces promesses sont pour nous encore aujourd'hui. C'est ta volonté que ton Église soit remplie du Saint-Esprit et puisse faire les œuvres que tu as préparées d'avance. Oui, Seigneur, nous voulons être remplis du Saint-Esprit pour faire ta volonté, pour faire ton œuvre, pour témoigner, pour être des instruments de bénédiction là où tu nous as placés, au travail, dans la faculté, quel que soit le lieu où nous servons. Seigneur, il y a encore des âmes qui ont besoin d'entendre ta parole. Nous avons besoin d'être remplis de ton esprit pour prier d'une manière spirituelle, pour prier les bons sujets de prière, pour prier comme Étienne a pu être conduit à prier « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font et ne leur impute pas ce péché ». Ces prières qui viennent de ton cœur. Seigneur, nous voulons être en communion avec toi et vivre comme tu nous l'as enseigné. Dans le nom de Jésus, nous te rendons toute la gloire. Amen. Amen.